Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h.
Qu'est-ce que c'est le plateau définitif ?
Roméo Castellucci.
C'est le cerveau, le corps, le cœur, le spectateur. Le théâtre, vraiment, ce n'est pas un objet, il reste rien, non ? C'est comme un feu. Et c'est quelque chose qui pénètre dans le corps du spectateur.
Ça peut pas faire de mal.
C'est la mémoire du feu qui reste imprimée dans la mémoire, dans le... les vitres obscures de la mémoire du spectateur, c'est que de l'expérience. L'expérience s'appartient au spectateur, surtout pas à l'artiste.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Ici, dans cette catacombe nouvelle, se célèbre une vie nouvelle et vaste. Ici, dans le silence de ce garage nocturne, il me semble entendre des grondements de révolte pour embellir les coutumes et usages de notre pauvre vie quotidienne.
Oh, mais j'entends un moteur allumé. Connaissez-vous la parabole de la voiture renversée ? La voiture retournée sur le toit, c'est la révolte de l'art décoratif contre l'art libre. Ceux qui retournent une voiture sont les artisans, là de travailler sans jouir des fruits de leur travail.
L'auto-retourné, c'est cet art qui, même si son moteur est allumé, ne va nulle part. Le moteur allumé, c'est le moteur des jours qui se succèdent, l'un après l'autre. Les roues en l'air, ce sont les parcours célestes vers lesquels se dirigent les objets terrestres.
Le bruit de moteur, c'est la voix des choses et des événements qui attendent leur libération. La grande rédemption de la décoration. La grande coupure avec le conformisme. C'est ainsi que les artisans arrêtent les artistes.
Hosanna, mon Dieu. Vous avez tous entendu ? Hosanna.
Cette vision d'une voiture renversée dans le sous-sol urbain est née de l'imagination géniale et provocante d'un grand metteur en scène italien, Roméo Castellucci. Sa prochaine création, La Vita Nuova, se jouera du 9 au 24 novembre à la Grande Halle de la Villette. Visionnaire et volontiers blasphématoire, l'artiste réinvente au milieu des carcasses de voitures une étrange liturgie du monde contemporain. Cette performance s'inscrit dans la riche programmation du Festival d'automne qui réunit chaque année des créateurs du monde entier. Créé en 1972, le festival a pour vocation, je cite, « de garder les fenêtres ouvertes », selon les mots de son fondateur, Michel Guy. C'est lui qui a invité en France de grands metteurs en scène comme Bob Wilson, Klaus Michael Gruber ou encore le chorégraphe américain Merce Cunningham à l'honneur cette année à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance. Depuis 47 ans, la manifestation continue à nous faire voyager à travers les époques, les cultures, les arts de la scène, mêlant musique, danse, arts plastiques, cinéma. Des classiques aux auteurs contemporains, nous évoquerons ce soir quelques grands noms à l'affiche de cette saison. Racine, Genet, Éric Guillard, mais aussi Édouard Kipling et Hector Malo, du côté des spectacles jeunesse. Pour m'accompagner dans cette traversée littéraire, j'ai le grand plaisir d'accueillir un ami et collègue de la Comédie Française, le sociétaire Jérôme Pouly. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir Guillaume.
Depuis sa création, le Festival d'automne n'a cessé de s'ouvrir au monde en ignorant les frontières. Ouvrons donc ce parcours avec Congo, mis en scène par le Congolais Faustin Ligné-Coulin. Entre danse, théâtre et chant, Congo se jouera au Théâtre des Abbesses du 20 au 23 novembre. Inspiré du magnifique texte d'Éric Vuillard, Congo nous ramène aux heures sombres de l'époque coloniale. Tout commence lors de la fameuse conférence de Berlin, lorsque les grandes puissances décident du sort de l'Afrique et dessinent la carte du Congo belge. Mais après avoir tracé les lignes imaginaires, l'heure de la conquête est plus sombre qu'on ne l'avait imaginé. Suivons Charles Lemaire, officier d'artillerie au cœur de la forêt. Au beau milieu des pillages et de la barbarie, la nature sauvage impose une trêve aux conquérants. L'instant de grâce, hélas, ne dure pas.
Charlemagne et ses hommes avancent sur un sentier de terre au milieu de la forêt. Des soldats noirs le suivent. Ils avancent lentement, couverts de sueur. Sur le côté, une lagune scintille. Soudain, le maire voit quelque chose, un tout petit frisson à la surface du monde. Il s'accroupit et fait signe à ses hommes. On reste immobile. Un homme tient son fusil serré contre lui, prêt à tirer. Chacun retient sa respiration. Cela dure peut-être une minute. Puis c'est une toute petite détonation, presque rien, et un formidable bruissement, une déchirure. Cela semble venir de toutes parts. Tumulte, cris. Il fait jour, un jour blanc. Il y a soudain un millier de taches blanches et bleues, nuées de piaillements jaillies de la forêt. Le soleil disparaît et ce sont des oiseaux. Des oiseaux partout. Un soldat pris de peur a tiré, mais on ne lui en veut pas, au contraire. On assiste à je ne sais quelle naissance, tirée du sommeil, vivant. Le maire n'a jamais vu tant d'oiseaux. On dirait qu'on les a réunis là depuis le début des temps, afin qu'ils s'envolent, maintenant, tous ensemble. Le maire avance, émerveillé. Les trois blancs qui l'accompagnent s'interpellent en riant. Les oiseaux volent très bas, autour d'eux, le ventre tourné sur le ciel. Les ailes blanches, jaunes, rouges, bleues. Ah, on veut les toucher. C'est une abondance intérieure, une chose qu'on ne voit jamais. Les hommes crient, même les soldats noirs. Et puis, les oiseaux s'éparpillent et l'impression de bonheur se dissipe. Plus tard, la nuit se met à tomber, lourde, chaude. On arrive près d'un village. La nuit est de plus en plus noire. Le maire ne voit rien, ses bottes sont pleines de jus. Son visage brille entre les torches. Le premier village est vide. Les habitants se sont retirés dans les bois. Le maire est fatigué, il a oublié les oiseaux de tout à l'heure. Il a oublié son petit village de Belgique. Il a oublié les courses dans les pâturages. Il a oublié son enfance. L'enfance est pourtant là, devant lui, tout entière. Mais pas sous forme de souvenir, non, sous forme d'épouvante. Car il a peur. Le grand seigneur est là, masque cuit, allongé dans son averse d'étincelles. Les nègres le regardent. Les blancs aussi le voient. Tous le voient à travers leurs yeux épouvantés. Ses ailes rôtissent, son bec grésille, sa peau est noire. Alors le maire ordonne de tout brûler. Il hurle, et les nègres courent et glapissent dans leur langue bizarre. Mais le maire ne comprend rien et s'en fiche. Il hurle dans sa propre langue, la plus bizarre de toutes. Il hurle de jeter des torches dans les huttes, de tout détruire, tout, tout, tout. Et on brûle tout. Des femmes sortent en courant, presque nues, l'une tenant un enfant derrière elle, dans des nœuds de tissu. Les surveillants lâchent leurs fusils. Ils suivent les femmes dans la forêt. Le maire passe entre les maisons en feu. Il ne voit plus rien, sans doute, rien que les flammes. Et à travers elles, le centre des choses, soleil, fumée. Il n'entend pas les cris. Le bois crépite, l'écorce éclate. La forme lentement se débarrasse d'elle-même, mais le feu trouve toujours un bout de bois, un ballot de tissu, et il se rallume, et le grand seigneur se tord à nouveau et se calcine. Le maire a la fièvre. Il avance dans la nuit que le feu éclaire, la nuit vide, terrifiante. Soudain, il entend un cri de femme, trois coups de fusil, puis un cri horrible.
Given long ago to a gentleman I did not know, to families made a king and queen, then commit to love, sight unseen. He gave me silk and amber gold and prayed my heart might take a hold, but it never could and it never would. Thank you.
ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Mowgli, le petit homme trouvé par la panthère noire Bagheera, a été élevé comme un enfant loup.
Poursuivons notre cheminement au cœur de la forêt africaine avec Jungle Book de Bob Wilson, adapté du célèbre roman de Rudyard Kipling. Après Peter Pan et le Petit Prince, Bob Wilson puise une nouvelle fois dans le répertoire de la littérature jeunesse et nous offre sa vision entre théâtre, danse et musique. Son adaptation se jouera à Paris au Théâtre de la Ville 13e art jusqu'au 8 novembre, puis en tournée à Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand et Anvers. En attendant de découvrir sur scène l'univers fantastique de ce grand metteur en scène, ouvrons le texte qui l'inspire. Recueilli bébé par une meute de loups, Mowgli a appris les secrets de la jungle et grandit sous la double protection de Baloo et Bagheera. Mais s'il est considéré comme un frère par sa meute, le petit homme, aujourd'hui âgé de 12 ans, demeure une menace aux yeux de nombreux animaux. Parmi eux, le redoutable tigre Shere Khan qui attend son heure depuis des années pour le dévorer. Suivons Mowgli à l'heure solennelle du Grand Conseil des animaux. Je vous propose, cher Jérôme, le rôle de Mowgli. J'assumerai pour ma part la voix du narrateur et celle du perfide Shere Khan. Le petit homme a vécu trop longtemps. Peuple libre, c'est ainsi que l'on nomme le clan des loups. Il fut ma proie dès le commencement. Donnez-le-moi. J'en ai assez de cette dérision d'homme-loup. Il a troublé la jungle pendant 10 saisons. Donnez-moi le petit homme, ou bien je chasserai toujours par ici et je ne vous laisserai pas un os. C'est un homme, un enfant d'homme, et dans la moelle de mes os, je le hais. Alors, plus de la moitié du clan hurla. Un homme, qu'est-ce qu'un homme peut avoir à faire avec nous, qui s'en aille avec ses pareils? Le laisser partir, ben voyons. Pour qu'il tourne contre nous tout le peuple des villages? Non, vociféra Shere Khan, donnez-le-moi. C'est un homme, et nul d'entre nous peut le fixer dans les yeux.
Écoutez, il n'y a pas besoin de criailler comme des chiens. Vous m'avez dit trop souvent cette nuit que je suis un homme, et cependant, je serai resté un loup avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Je sens la vérité de vos paroles. Aussi, je ne vous appelle plus mes frères, mais sag, c'est-à-dire chien, comme le ferait un homme. Et afin de tirer la chose au clair, moi, l'homme, j'ai apporté ici un peu de cette fleur rouge empruntée au village des hommes, et que vous, chien, vous craignez.
Il jeta le pot sur le sol, et quelques charbons rouges allumèrent une touffe de mousse sèche qui flamba, tandis que tout le conseil reculait de terreur devant le saut de la flamme. Mowgli enfonça une branche morte dans le feu jusqu'à ce qu'il vît des brindilles se tordre et crépiter, puis il la fit tournoyer au-dessus de sa tête au milieu des loups qui rampaient de terreur.
« Bien !»
dit Mowgli en promenant avec lenteur un regard circulaire.
« Je vois que vous êtes des chiens. Je vous quitte pour retourner à mes pareils, si vraiment ils sont mes pareils. » La jungle m'est fermée, je dois oublier votre langue et votre compagnie, mais je serai plus miséricordieux que vous, parce que j'ai été votre frère en tout, sauf par le sang. Je promets que lorsque je serai un homme parmi les hommes, de ne pas vous trahir auprès d'eux comme vous m'avez trahi. »
Il donna un coup de pied dans le feu et les étincelles volèrent. Il marcha alors à grands pas vers l'endroit où Shere Khan, couché, clignait de l'œil stupidement aux flammes, et le prit par la touffe de poils sous le menton. Bagheera suivait en cas d'accident.
Debout, chien! Debout quand un homme parle, ou je mets le feu à ta robe!
Les oreilles de Shere Khan s'aplatirent sur sa tête, et il ferma les yeux car la branche flamboyante était tout près de lui.
Cet égorgeur de bétail a dit qu'il me tuerait en plein conseil, parce qu'il ne m'avait pas tué quand j'étais petit. Voici, et voilà, comment nous, les hommes, nous battons les chiens. Remue seulement une moustache, et je t'enfonce la fleur rouge dans la gorge. »
Il frappa Shere Khan de sa branche sur la tête tandis que le tigre geignait et pleurnichait une agonie d'épouvante.
« Peuh ! Chat de jungle roussi, va-t'en, maintenant. Mais souviens-toi de mes paroles. La première fois que je reviendrai au rocher du conseil, comme il sied que vienne un homme, ce sera vêtu de ta peau, Shere Khan. »
Le feu brûlait furieusement au bout de la branche, et Mowgli frappait de droite et de gauche autour du cercle, et les loups s'enfuyaient en hurlant sous les étincelles qui brûlaient leur fourrure. À la fin, il ne resta plus que le vieux loup Akela, Bagheera, et peut-être 10 loups qui avaient pris le parti de Mowgli. Alors Mowgli commença de sentir quelque chose de douloureux au fond de lui-même. Quelque chose qu'il ne se rappelait pas avoir jamais senti jusqu'à ce jour. Il reprit haleine et sanglota. Et les larmes coulèrent sur son visage.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas envie de quitter la jungle. Et je ne sais pas ce que j'ai. Vais-je mourir, Bagheera?
Non, petit frère. Ce ne sont que les larmes, comme il arrive aux hommes, dit Bagheera. Maintenant, je vois que tu es un homme et non plus un petit homme. Oui, la jungle t'est fermée désormais. Laisse-les couler, Mowgli. Ce ne sont seulement que des larmes. L'aurore commençait à poindre quand Mowgli descendit la colline tout seul, en route vers ces êtres mystérieux qu'on appelle les hommes. Changeons d'univers et de ton avec Lettre de nos motivations, un texte plein d'humour qui met en scène une armée de récalcitrants au travail. Après avoir vainement cherché un emploi, le plasticien Julien Prévieux décide d'inverser la vapeur et rédige plus de 1000 lettres négatives en réponse à d'authentiques offres d'emploi. Chacune de ces lettres, au ton décalé et au contenu cocasse, reçoit en retour une réponse, souvent automatique, qui révèle l'absurdité de l'exercice. Après le succès de sa première adaptation en 2015, le metteur en scène Vincent Thomasset renouvelle l'exercice sous une forme itinérante afin d'aller à la rencontre de nouveaux publics. Le spectacle sera visible en région parisienne entre le 6 octobre et le 22 janvier. Pour donner vie à ce savoureux dialogue de sourds entre l'entreprise qui recrute et le plasticien, je vous propose, Jérôme Pouli, de jouer Julien Prévieux et moi, les recruteurs. Découvrons pour commencer sa réponse à une offre d'emploi de la société Benedicta, numéro 2 sur le marché français des sauces froides.
Le 10 septembre 2003. Madame, monsieur, je vous écris suite à votre proposition de poste de chef de secteur paru dans le journal Le Marché du Travail. Je dispose d'une solide formation commerciale, d'un tempérament enthousiaste et d'un goût immodéré pour la junk food. Depuis 5 ans, je me nourris exclusivement de sauce béarnaise, de sauce hot pepper, de sauce pommes frites, de sauce américaine, d'aioli, de sauce pour nem, de sauce bourguignonne et de sauce madère. Dans une recherche d'efficacité maximum, j'ingurgite les pots le plus rapidement possible. Fort de cette expérience, j'ai largement dépassé le poids limite qu'on peut se permettre si l'on veut pouvoir se déplacer. C'est pourquoi j'estime avoir toutes les qualités requises pour devenir chef de secteur. Malheureusement, votre proposition de poste se situe en région parisienne et je ne m'éloigne jamais du supermarché Franprix de la rue des Amandiers. Par conséquent, je me vois, bien malgré moi, dans l'obligation de refuser votre offre. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, madame, monsieur, d'agréer l'expression de refuser votre offre. Julien Prévieux.
Un mois plus tard arrive cette réponse des ressources humaines. Madame, monsieur, nous avons bien reçu votre candidature à notre offre d'emploi de début septembre et vous en remercions. Malheureusement, nous sommes au regret de ne pouvoir vous répondre favorablement. Néanmoins, si vous nous y autorisez, nous conservons votre dossier et nous ne manquerons pas de faire appel à vous. Si d'aventure un poste correspondant à votre profil venait à se libérer, nous vous prions de croire, madame, monsieur, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.
Le théâtre, c'est justement...
Jean Genet.
En tout cas, le théâtre que je préfère, c'est justement ce théâtre qui saisit la société en diagonale. Ma démarche, par rapport à la société, ma démarche est oblique. Elle n'est pas directe. Elle n'est pas non plus parallèle, puisqu'elle traverse le monde, elle le voit. Elle est oblique. Je l'ai vu en diagonale, le monde. Et je le vois encore en diagonale.
Continuons à faire tomber les masques et à révéler le grand jeu des hypocrisies sociales avec Les Bonnes de Jean Genet. C'est la pièce la plus jouée de Jean Genet, Les Bonnes. Créée en 1947, l'intrigue s'inspire de l'affaire des sœurs Papin 30 ans plus tôt. Deux sœurs domestiques se révoltent et assassinent leur maîtresse. La pièce fait scandale par son style, jugé décadent. Plus que l'outrage à la bourgeoisie, c'est l'outrance du langage qui choque. Mais l'écrivain pensait aller plus loin encore en faisant jouer les deux rôles féminins par des hommes. Car au-delà de la domination sociale, c'est la domination des genres qui est en jeu. Pour sa première mise en scène de théâtre, la grande chorégraphe sud-africaine Robin Orlin réalise pour la première fois le projet de Genet en confiant le rôle d'Ebonne à deux comédiens noirs. Le spectacle sera présenté du 4 au 15 novembre au Théâtre de la Bastille. Nous sommes à quelques pages du début de la pièce. Seules dans leur chambre sous les toits, les deux sœurs se livrent à une dangereuse parodie où la réalité et la fiction se confondent. Claire joue le rôle de Madame et Solange joue le rôle de Claire, la bonne. Jérôme, vous serez Solange, l'aînée, la révoltée, et je serai Claire, la cadette. Écartez-vous, frôleuse.
Voleuse ? Moi ?
Je dis frôleuse. Si vous tenez à pleurnicher, que ce soit dans votre mansarde, je n'accepte ici dans ma chambre que des larmes nobles. Le bas de ma robe, certains jours, en sera constellé, mais de larmes précieuses. Disposez la traîne, traînée.
Madame s'emporte.
Dans ses bras parfumés, le diable m'emporte. Il me soulève, je décolle, je pars et je reste. Le collier ? Mais dépêche-toi, nous n'aurons pas le temps. Si la robe est trop longue, fais un ourlet avec des épingles de nourrice. Et tenez vos mains loin des miennes. Votre contact est immonde. Dépêchez-vous.
Il ne faut pas exagérer. Vos yeux s'allument. Vous atteignez la rive.
Vous dites ?
Les limites, les bornes, madame. Il faut garder vos distances.
Quel langage, ma fille ? Claire ? Tu te venges, n'est-ce pas ? Tu sens approcher l'instant où tu quittes ton rôle ?
Madame me comprend merveille. Madame me devine.
Tu sens approcher l'instant où tu ne seras plus la bonne ? Tu vas te venger. Tu t'apprêtes ? Tu aiguises tes ongles ? La haine te réveille ? Claire n'oublie pas. Claire, tu m'écoutes ? Mais Claire, tu ne m'écoutes pas.
Je vous écoute.
Par moi seule, la bonne existe. Par mes cris et par mes gestes.
Je vous écoute.
C'est grâce à moi que tu es et tu me nargues. Tu ne peux savoir comme il est pénible d'être madame, Claire. D'être le prétexte à vous simagrer. Il me suffirait de si peu et tu n'existerais plus. Mais je suis bonne. Mais je suis belle. Et je te défie. Mon désespoir d'amante m'embellit encore.
Assez. Dépêchez-vous. Vous êtes prête ?
Et toi ?
Je suis prête. J'en ai assez d'être un objet de dégoût. Moi aussi, je vous hais.
Doucement, mon petit, doucement.
Je vous hais, je vous méprise. Vous ne m'intimidez plus. Réveillez le souvenir de votre amant qu'il vous protège. Je vous hais. Je hais votre poitrine pleine de souffle embaumé. Votre poitrine d'ivoire. Vos cuisses d'or. Vos pieds d'ambre. Je vous hais.
Oh, mais...
Oui, madame, ma belle dame. Vous croyez que tout vous sera permis jusqu'au bout ? Vous croyez pouvoir dérober la beauté du ciel et m'en priver ? Choisir vos parfums, vos poudres, vos rouges à ongles, la soie, le velours, la dentelle et m'en priver ? Et me prendre le laitier ? Avouez, avouez le laitier ! Sa jeunesse, sa fraîcheur vous trouble, n'est-ce pas ? Avouez le laitier, car Solange vous emmerde !
Claire, Claire !
Hein ?
Claire, Solange, Claire.
Oui, Claire. Claire vous emmerde ! Claire est là, plus claire que jamais, lumineuse !
Elle gifle Claire. Oh ! Oh ! Claire, vous... Oh !
Madame se croyait protégée par ses barricades de fleurs, sauvée par un exceptionnel destin, par le sacrifice. C'était compté sans la révolte des bonnes. La voici qui monte, madame. Elle va crever et dégonfler votre aventure. Ce monsieur n'était qu'un triste voleur, et vous, une...
Je t'interdis.
M'interdire ? Plaisanterie. Madame est interdite. Son visage se décompose. Vous désirez un miroir ?
J'y suis plus belle. Le danger m'auréole, Claire. Et toi, tu n'es que ténèbres.
Infernal. Je sais. Je connais la tirade. Je lis sur votre visage ce qu'il faut vous répondre et j'irai jusqu'au bout. Les deux bonnes sont là, les dévouées servantes. Devenez plus belles pour les mépriser. Nous ne vous craignons plus. Nous sommes enveloppés, confondus dans nos exhalaisons, dans nos fastes, dans notre haine pour vous. Nous prenons forme, madame. Ne riez pas, et surtout ne riez pas de ma grandiloquence.
Allez-vous-en.
Pour vous servir encore, madame, je retourne à ma cuisine. J'y retrouve mes gants et l'odeur de mes dents, le rose silencieux de l'évier. Vous avez vos fleurs, j'ai mon évier. Je suis la bonne. Vous, au moins, vous ne pouvez pas me souiller, mais vous ne l'emporterez pas en paradis. J'aimerais mieux vous y suivre que de lâcher ma haine à la porte. Riez un peu, riez et priez vite, très vite. Vous êtes au bout du rouleau, ma chère.
Elle tape sur les mains de Claire qui protège sa gorge.
Bah les pâtés, découvrez ce cou fragile. Allez, ne tremblez pas, ne frissonnez pas. J'opère vite et en silence. Oui, je vais retourner à ma cuisine, mais avant, je termine ma besogne.
Elle semble sur le point d'étrangler Claire. Soudain, un réveil matin sonne. Solange s'arrête. Les deux actrices se rapprochent, émues, et écoutent, pressées l'une contre l'autre.
Déjà ?
Dépêchons-nous, madame va rentrer. Elle commence à dégrafer sa robe. Aide-moi ! C'est déjà fini et tu n'as pas pu aller jusqu'au bout.
C'est chaque fois pareil. Et par ta faute. Tu n'es jamais prête assez vite. Je ne peux pas t'achever.
Jean, mes chaussures. Jean, ma fourrure. Jean, mes bijoux. Qu'attendez-vous? Jean, mon chapeau. Mes gants de peau. Jean, mon foulard. Jean, ton cigare. Jean, ceci. Et Jean, cela. Je n'ai pas une minute à moi. Jean, mon manchon. Jean, tes péchons. Mon sac à main. C'est pour demain. Jean, les bagages. Jean, quel langage. Jean, cigarette. Jean, ta braguette. Et Jean, ceci. Et Jean, cela. Je n'ai pas une minute à moi. Je n'ai pas une minute tranquille. Je n'ai pas une minute à moi. Jean, et vous rêvez? Jean, vous dormez? Jean, vous planez? Jean, vous buvez? Jean, que faites-vous? Jean, vous êtes fou? Jean, vous partez? Non. Attendez! Jean, ceci. Jean, cela.
Interrogeons de nouveau la théâtralité à travers un dialogue inédit entre un auteur classique et un théoricien contemporain. C'est l'un des fidèles du Festival d'automne, le metteur en scène allemand Frank Castorf. Après Molière, Balzac et Sartre, l'artiste poursuit son travail sur les auteurs classiques français. Son choix se porte sur Bajazet, l'une des grandes tragédies de Racine, écrite en 1672. Le projet audacieux propose une lecture de Racine à la lumière de l'un de ses critiques, Antonin Artaud, qui dans son célèbre manifeste « Le théâtre et son double », publié en 1938, critique la psychologie racinienne. Il s'agit de revendiquer en permanence la contradiction, une hostilité potentielle, et même le mal, si on veut, écrit Frank Castorf dans ses réflexions sur le théâtre. Bajazet, d'après Racine et Artaud, sera présenté du 5 au 14 décembre à la MC 93 à Bobigny, avec Jeanne Balibar et Jean-Damien Barbin dans les rôles principaux. Commençons par Artaud. Voici un extrait du chapitre intitulé « Le théâtre et la peste ». Curieusement, la conception du théâtre comme mal nécessaire rejoint la conception de la tragédie chez Racine.
Le théâtre, comme la peste, est une crise qui se dénoue par la mort ou par la guérison. Et la peste est un mal supérieur parce qu'elle est une crise complète, après laquelle il ne reste rien que la mort ou qu'une extrême purification. De même, le théâtre est un mal parce qu'il est l'équilibre suprême qui ne s'acquiert pas sans destruction. Il invite l'esprit à un délire qui exalte ses énergies. Et l'on peut voir, pour finir, que du point de vue humain, l'action du théâtre, comme celle de la peste, est bienfaisante. Car poussant les hommes à se voir tels qu'ils sont, elle fait tomber le masque. Elle découvre le mensonge, la veulerie, la bassesse, la tartufferie. Elle secoue l'inertie asphyxiante de la matière qui gagne jusqu'aux données les plus claires des sens. Et révélant à des collectivités leur puissance sombre, leur force cachée, elle les invite à prendre, en face du destin, une attitude héroïque et supérieure qu'elle n'aurait jamais eue sans cela. Comme la peste, le théâtre est donc un formidable appel de force qui ramène l'esprit par l'exemple à la source de ses conflits.
Et la question qui se pose maintenant est de savoir si dans ce monde qui glisse, qui se suicide sans s'en apercevoir, il se trouvera un noyau d'homme capable d'imposer cette notion supérieure du théâtre qui nous rendra à tous l'équivalent naturel et magique des dogmes auxquels nous ne croyons plus. Si notre vie manque de souffle, c'est-à-dire d'une constante magie, c'est qu'il nous plaît de regarder nos actes et de nous perdre en considération sur les formes rêvées de nos actes au lieu d'être poussés par eux. Comme toute culture magique, le vrai théâtre a aussi ses ombres. Pour le théâtre, comme pour la culture, la question reste de nommer et de diriger des ombres. Briser le langage pour toucher la vie, c'est faire ou refaire le théâtre. À la suite d'Artaud, découvrons dans Bajazet de Racine une scène où les masques tombent justement. Avant de partir à la guerre, le sultan Amura confie les pleins pouvoirs à Roxane, sa favorite. Amoureuse de Bajazet, le propre frère d'Amura, Roxane propose à ce dernier de monter sur le trône à ses côtés à la condition de l'épouser. Mais Bajazet aime Atalide, une autre femme du sérail. Dans cette tragédie du pouvoir et de la passion, Bajazet, d'abord tenté par l'ambition politique, y renonce par fidélité à son amour, provoquant la colère de la sultane. Dans la scène suivante, Roxane a intercepté une lettre de Bajazet où il avouait des sentiments fins à son égard. Nous sommes à la scène 4 de l'acte 5. La dernière réplique de Roxane, « Sortez », condamne Bajazet à la mort. Vous serez le héros tragique, Jérôme, je serai votre Roxane. Je ne vous ferai point des reproches frivoles. Les moments sont trop chers pour les perdre en paroles. Mes soins vous sont connus. En un mot, vous vivez, et je ne vous dirai que ce que vous savez. Malgré tout mon amour, si je n'ai pu vous plaire, je n'en murmure point, quoiqu'à ne vous rien taire, ce même amour peut-être et ces mêmes bienfaits auraient dû suppléer à mes faibles attraits. Mais je m'étonne enfin que pour reconnaissance, pour prix de tant d'amour, de tant de confiance, vous ayez si longtemps, par des détours si bas, fin un amour pour moi que vous ne sentiez pas.
Qui ? Moi, madame ?
Oui, toi. Voudrais-tu point encore me nier un mépris que tu crois que j'ignore ? Ne prétendrais-tu point, par tes fausses couleurs, déguiser un amour qui te retient ailleurs et me jurer enfin d'une bouche perfide tout ce que tu ne sens que pour ton Atalide ?
Atalide ? Madame ? Au ciel, qui vous a dit ?
Tiens, perfide, regarde et dément cet écrit.
Je ne vous dis plus rien. Cette lettre sincère d'un malheureux amour contient tout le mystère. Vous savez un secret que tout prête à s'ouvrir. Mon cœur a mille fois voulu vous découvrir. J'aime, je le confesse. Et devant que votre âme, prévenant mon espoir, m'eût déclaré sa flamme, déjà plein d'un amour dès l'enfance formé, à tout autre désir mon cœur était fermé. Vous me vintes offrir, et la vie, et l'empire, et même votre amour, si j'ose vous le dire, consultant vos bienfaits, les crus, et sur leur foi, de tous mes sentiments, vous répondit pour moi. Je connus votre erreur, mais que pouvais-je faire? Je vis en même temps qu'elle vous était chère. Combien le trône tente un cœur ambitieux. Un si noble présent me fit ouvrir les yeux. Je chéris, j'acceptais sans tarder davantage l'heureuse occasion de sortir d'esclavage, d'autant plus qu'il fallait l'accepter ou périr. D'autant plus que vous-même, ardente à me l'offrir, vous ne craignez rien tant que d'être refusé, que même mes refus vous auraient exposé, qu'après avoir osé me voir et me parler, il était dangereux pour vous de reculer. Cependant, je n'en veux pour témoin que vos plaintes. Ai-je pu vous tromper par des promesses feintes? Songez combien de fois vous m'avez reproché un silence témoin de mon trouble caché.
Plus l'effet de vos soins et ma gloire étaient proches, plus mon cœur interdit se faisait de reproches. Le ciel qui m'entendait, c'est bien qu'en même temps, je ne m'arrêtais pas à des vœux impuissants. Et si l'effet, enfin, suivant mon espérance, eût ouvert un champ libre à ma reconnaissance, j'aurais, par tant d'honneur, par tant de dignité, contenté votre orgueil et payé vos bontés, que vous-même peut-être...
Et que pourrais-tu faire? Sans l'offre de ton cœur, par où peux-tu me plaire? Quels seraient de tes vœux les inutiles fruits? Ne te souvient-il plus de tout ce que je suis? Maîtresse du sérail, arbitre de ta vie, et même de l'état qu'Amurat me confie, sultane, et ce qu'en vain j'ai cru trouver en toi, souveraine d'un cœur qui n'eût aimé que moi. Dans ce comble de gloire où je suis arrivé, à quel indigne honneur m'avais-tu réservé? Traînerais-je en ces lieux un sort infortuné, vil rebut d'un ingrat que j'aurais couronné, de mon rang descendu à mille autres égales, ou la première esclave enfin de ma rivale? Laissons ces vains discours et sans m'importuner, pour la dernière fois veux-tu vivre et régner? J'ai l'ordre d'Amurat et je puis t'y soustraire. Mais tu n'as qu'un moment, parle.
Que faut-il faire?
Ma rivale est ici. Suis-moi sans différer, dans les mains des muets, viens la voir expirer, et libre d'un amour à ta gloire funeste, viens m'engager ta foi, le temps fera le reste. Ta grâce est à ce prix, si tu veux l'obtenir.
Je ne l'accepterai que pour vous en punir, que pour faire éclater aux yeux de tout l'Empire l'horreur et le mépris que cette offre m'inspire. Mais à quelle fureur me laissant emporter, contre ces tristes jours, vais-je vous irriter? De mes emportements, elle n'est point complice, ni de mon amour même, ni de mon injustice. Loin de me retenir par des conseils jaloux, elle me conjurait de me donner à vous, en un mot séparé, ses vertus de mon crime. Poursuivez, s'il le faut, un courroux légitime. Aux ordres d'Amurat, hâtez-vous d'obéir. Mais laissez-moi du moins mourir sans vous haïr. Amurat avec moi ne l'a point condamné. Épargnez une vie assez infortunée. Ajoutez cette grâce à tant d'autres bontés, madame. Et si jamais je vous fus cher...
Sortez. Sensible à la formation des jeunes générations, le Festival d'automne fait la part belle à l'enfance. Découvrons à présent un grand classique de la littérature jeunesse, Sans famille, d'Hector Malot.
Maman, c'est pas vrai ce qu'il a dit. T'es ma maman.
Oh, tu sais, mon Rémi, il y a longtemps que je voulais t'en parler. Mais c'est pareil. T'es mon petit garçon à moi, pareil. Comme si je t'avais fait.
Oh, tu m'as menti. Qui c'est alors, ma vraie maman?
Publié en 1878, ce roman met en scène un orphelin de 8 ans, Rémi, chassé des bras de sa nourrice par un beau-père brutal. Adapté par le metteur en scène et marionnettiste Jonathan Capdevielle, le texte donne lieu à deux créations. L'une, scénique, montre les débuts d'artiste de Rémi, engagé dans une troupe de théâtre de rue. L'autre partie, sous la forme d'un podcast radiophonique, invite les spectateurs à écouter la suite de ses aventures, où l'enfant abandonné deviendra un musicien célèbre. La pièce, avec Dimitri Doré dans le rôle de Rémi, se jouera du 23 au 30 novembre au Théâtre des Amandiers à Nanterre. Le 15 décembre à Choisy-le-Roi, puis en janvier à la Ferme du Buisson et à Saint-Quentin-en-Yvelines. Revenons au début de l'histoire. Le garçon est vendu à Vitalis, un vieil homme au grand cœur, montreur de chiens. Dans le passage suivant, Rémi fait ses premiers pas sur scène avec comme partenaire le caniche Capi et le singe Joli Cœur. Vitalis ouvrait la marche, la tête haute, la poitrine cambrée, et il marquait le pas des deux bras et des pieds en jouant une valse sur un fifre en métal. Derrière lui venait Capi, sur le dos duquel se prélassait Monsieur Joli Cœur en costume de général anglais, habillé pantalon rouge galonné d'or, avec un chapeau à claques surmonté d'un large plumet. Puis, à une distance respectueuse, s'avançaient sur une même ligne Zerbino et Dolce. Enfin, je formais la queue du cortège qui tenait une certaine place dans la rue. Mais ce qui, mieux encore que la pompe de notre défilé, provoquait l'attention, c'était les sons perçants du fifre qui allaient jusqu'au fond des maisons éveiller la curiosité des habitants d'Ussel. On accourait sur les portes pour nous voir passer. Les rideaux de toutes les fenêtres se soulevaient rapidement. Quelques enfants s'étaient mis à nous suivre. Des paysans ébahis s'étaient joints à eux. Et quand nous étions arrivés sur la place, nous avions derrière nous et autour de nous un véritable cortège. Notre salle de spectacle fut bien vite dressée. Elle consistait en une corde attachée à quatre arbres, de manière à former un carré long au milieu duquel nous nous plaçâmes. J'étais à me répéter mon rôle, troublé par l'inquiétude, quand ce fut à Jolicoeur et à moi à entrer en scène.
« Mesdames et messieurs !»
dit Vitalis en gesticulant d'une main avec son archet et de l'autre avec son violon.
« Voici une charmante comédie intitulée « Le domestique de Monsieur Jolicoeur » ou « Le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense !» Un homme comme moi ne s'abaisse pas à faire l'éloge de ses pièces et de ses acteurs. Je ne vous dis donc qu'une seule chose, écarquillez les yeux, ouvrez les oreilles et préparez vos mains pour applaudir. »
Le général Jolicoeur, en m'apercevant, leva les deux bras d'un air désolé. Et quoi ? C'était là le domestique qu'on lui présentait ? Sa mine fut si drôlatique que tout le monde éclata de rire. On avait compris qu'il me prenait pour un parfait imbécile. Après m'avoir examiné longuement, le général, pris de pitié, me faisait servir à déjeuner.
« Le général croit que quand ce garçon aura mangé, il sera moins bête »,
disait Vitalis.
« Nous allons voir cela. »
Et je m'asseyais devant une petite table sur laquelle le couvert était mis, une serviette posée devant mon assiette. Que faire de cette serviette ? Capi m'indiquait que je devais m'en servir. Mais comment ? Après avoir bien cherché, je fis le geste de me moucher dedans. Là-dessus, le général se tordit de rire. Et Capi tomba les quatre pattes en l'air, renversé par ma stupidité. Voyant que je me trompais, je contemplais de nouveau la serviette et m'en fis une cravate. Nouveau rire du général, nouvelle chute de Capi. Et ainsi de suite, jusqu'au moment où le général, exaspéré, m'arracha de ma chaise, s'assit à ma place et mangea le déjeuner qui m'était destiné. Ah, il savait se servir d'une serviette, le général. Avec quelle grâce il la passa dans une boutonnière de son uniforme et l'étala sur ses genoux. Avec quelle élégance il cassa son pain et vida son verre. Mais où ses belles manières produisirent un effet irrésistible, ce fut lorsque le déjeuner terminé, il demanda un cure-dent et le passa rapidement entre ses dents. Alors, les applaudissements éclatèrent de tous les côtés et la représentation s'acheva dans un triomphe. Comme le singe était intelligent, comme le domestique était bête. En revenant à notre auberge, Vitalis me fit ce compliment que j'étais bon comédien. Et je fus fier de cet éloge. C'était assurément des comédiens du plus grand talent que ceux qui composaient la troupe du signor Vitalis.
Je danse, je me balance d'un pied à l'autre. Machinalement je danse, je compte mes pas. Je danse dans le silence sur les murs de ma chambre. Mon ombre se balance, je danse à contre-temps. Moi je danse. Moi je danse. Dans mon cerveau, sur ma peau, dans les salles d'attente, des gardes, des hôpitaux, aux lueurs inquiétantes. Je danse, je me balance d'une mesure à l'autre. Obstinément je danse, je compte mes pas. Moi je danse. Moi je danse. Je danse dans le silence de janvier à décembre. Mon ombre se balance, je danse à contre-temps. Dans ce monde de fous, sur le mal, sur le bien, les deux pieds dans la boue, et sans aucun témoin, et les mots à la bouche, aux portes des églises, quand vont prier les mouches, inutiles, incomprises, et quand la nuit tombe sur les vies coupables, sur les laissés pour compte, les espoirs négligeables, moi je danse. Moi, je danse. Sur le fil dérisoire que tu tiens dans tes mains, sur le fil du rasoir, je vais à l'instinct. Dans les couloirs du temps, sous les yeux des horloges, sous la pluie, dans le vent, sur le feu dans ma gorge, moi, je danse. Moi je danse. Je me couvre des cendres de ces villes en ruine.
je tourne sans comprendre dans ces rues orphelines. Sur les masques, le rimmel, sous les postures, les injures, les matelas des bordels, sur les plaies des brûlures. Moi je danse, moi je danse. Devant les rideaux rouges, sur le marbre des tombes, quand autour rien ne bouge et que tombent les bombes, il y a du vent dehors ou je ne sais quoi, un dernier corps à corps, et c'est mon cœur qui bat. Moi je danse, je danse, je danse, je danse. Moi je danse, je danse, je danse, je danse. Moi je danse, moi je danse.
Comment naît un mouvement pour vous,
Merce Cunningham?
Quelquefois, j'ai vu quelque chose dans la rue. Et ce n'est pas une personne, par exemple, c'est un arbre ou un oiseau, quelque chose comme ça. Mais le mouvement m'intrigue toujours. Et je vois quelque chose que je ne comprends pas, par exemple. Et quand je me trouve dans le studio, j'essaie ce mouvement.
En conclusion, évoquons l'une des grandes personnalités à l'honneur du Festival d'automne, le chorégraphe américain Merce Cunningham. Élève de Martha Graham, artiste associé au musicien John Cage, il a incarné l'avant-garde pendant plus de 70 ans et a révolutionné la danse moderne en y mêlant les arts plastiques, la musique électronique et la vidéo. Né en 1919, l'artiste s'est éteint à l'âge de 90 ans, 2009, il y a tout juste 10 ans. Pour célébrer ce double anniversaire, les ballets de l'Opéra de Paris, de l'Opéra de Lyon et de l'Opéra de Lorraine, c'est-à-dire Nancy, reprennent ses plus célèbres chorégraphies à découvrir jusqu'au 21 décembre à Paris et en région parisienne. Découvrons sa définition de la danse comme art impermanent, c'était en 1955, extrait de la monographie « Merce Cunningham, un demi-siècle de danse » aux éditions Plume.
Je crois la danse plus primaire dans son essence, dans son énergie nue. L'exposition manifeste de cette énergie provoque la plus belle ivresse. Notre extase en danse vient du don possible de liberté, de ce moment exaltant que la révélation d'énergie pure peut nous faire vivre.
Je ne suis pas plus philosophe que mes jambes, mais elles me font comprendre un fait. Elles sont pleines d'une énergie qui peut être lâchée dans le mouvement et qui parle à mon imagination. Autrement dit, un homme est une créature à deux jambes, plus intimement et plus essentiellement que quoi que ce soit d'autre. Et ses jambes en disent plus qu'elles ne le savent.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Éric Boisset. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Fanny Leroy et Claire Tesser. Un grand merci à vous, Jérôme Pouli. Vous êtes actuellement à l'affiche dans Jules César de Shakespeare, mis en scène par Rodolphe Dana, ainsi que dans La Petite Sirène d'Andersen, mis en scène par Géraldine Martineau. Vous serez bientôt Dorante dans L'Heureux Stratagème de Marivaux, dans lequel je vous ai vu et que je vous ai trouvé sublime, sous la direction d'Emmanuel Domas au Théâtre du Vieux Colombier. À partir de janvier, on vous retrouvera dans Forum de Patrick Goujon, Hélène Grémillon et Maëlle Pirou, sous la direction de Jeanne Herry. Que j'embrasse. J'embrasse également Marie Collin, très tendrement, et aussi Christine Delterme du Festival d'automne. Un grand merci à vous, bonne soirée et à la semaine prochaine.